Bonjour Jean Leonetti.
Bonjour.
Le président de la République a tranché et c'est le Premier ministre qui l'a annoncé hier soir. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera bien mis en place à partir de janvier 2019. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de cette réforme? Les Français payent l'impôt, ils payeront l'impôt d'une autre manière et finalement est-ce que c'est vraiment bouleversant?
C'est une bonne question, mais qui c'est qui en fait trop? Qui c'est qui a dit quand il est ministre tout va bien, il n'y a aucun problème. Et le président de la République émet publiquement des doutes. Ensuite, on nous dit, et c'est la décision qui était incontournable du gouvernement, comment il aurait-il pu reculer sur un projet qui a déjà été reculé d'une année. Nous pensons que ce n'est pas une bonne réforme. La mensualisation, c'est une bonne réforme. Mais faire que les entreprises soient des collecteurs d'impôts et faire que les Français font de l'avance financière à l'État, ce n'est pas une bonne réforme, surtout dans une période dans laquelle leur pouvoir d'achat est érodé.
Vous n'êtes pas sensible à l'argument employé hier par Édouard Philippe, le Premier ministre, qui dit que c'est désormais l'administration fiscale qui s'adaptera aux contribuables et non plus l'inverse ?
Écoutez, ça c'est des mots. On verra dans les faits comment les choses se passent. Et dans une période qui est une période difficile pour les Français, la rentrée, elle n'est pas facile pour le président de la République, mais elle est très difficile pour les Français. Ils ont un pouvoir d'achat qui est en baisse. Et quand ils vont voir sur leur feuille de salaire une diminution significative, on peut penser que ça peut avoir une répercussion sur la croissance, parce que, bien entendu, ils vont moins consommer.
Ouais. Donc, cet argument a été opposé hier au Premier ministre, on lui a dit, il y a l'effet psychologique éventuel d'un chiffre en effet un peu plus bas sur la fiche de paye. Il a répondu, en gros, ne prenons pas les Français pour des imbéciles. Ils savent très bien qu'ils payent l'impôt à la fin de l'année, où beaucoup d'ailleurs sont mensualisés. Donc est-ce qu'effectivement, ça n'est pas supposé que les Français auraient du mal à comprendre quelque chose qui n'est quand même pas bien compliqué?
Les Français ont très très bien compris qu'ils font une avance financière à l'État. Avant, ils payaient l'année échue, l'année précédente, et maintenant, ils vont payer au jour le jour. Ça, c'est quand même une toute petite différence dans la gestion financière d'un couple, d'un ménage ou de l'ensemble des Français. Ils sont pas idiots, les Français. Édouard Philippe a raison. Mais ils ont bien compris que la manœuvre qui leur a été proposée ne leur est pas favorable.
Le président de la République, c'était l'autre décision d'hier, a choisi un remaniement à minima pour répondre au départ de Nicolas Hulot et à la démission surprise de la ministre des Sports, Laura Flessel. Qu'est-ce que vous pensez du choix de François de Rugy pour succéder à Nicolas Hulot ?
Je crois que le président de la République a choisi quelqu'un qui, visiblement, sera plus souple et plus docile que M. Hulot. Pour autant, les Français, ceux qui veulent savoir en cette rentrée, c'est pas comment on a remanié, s'il y a eu des ralliements, des reniements, tout ça, ça intéresse en partie la presse et la classe politique. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui change pour moi. Quelle est la politique environnementale du gouvernement? Et quand on est dans le flou et qu'on sort du flou, eh bien on sort souvent à ses dépens. Donc je trouve que la marque de la démission de M. Hulot, elle est surtout sur le fait qu'il dit « je ne peux plus me mentir et mentir aux Français ». Et ça, c'est un élément qui tue, à mon avis, l'idée du « en même temps ». Le « en même temps », il a ses limites. Et la démission de Nicolas Hulot en est la preuve.
La transition énergétique, la transition environnementale, c'est une préoccupation importante chez les Républicains ?
Écoutez, ça l'est. Ça l'est, peut-être qu'on n'a pas été assez audible sur des sujets comme la culture, l'environnement. Pour autant, je rappelle que c'est un homme comme Borloo qui a fait le Grenelle de l'environnement, qui a fait une avancée significative.
Oui, mais enfin, il n'a jamais été membre ni de l'UMP ni des Républicains.
Il a été proche
de votre famille politique. Il a été membre de l'UMP.
Eh oui, parce que le Parti radical à l'époque dont je faisais partie était à l'intérieur de l'UMP.
Oui,
il était dans la majorité. Voilà, il était ministre. Il était ministre d'un gouvernement de droite. Voilà. Et donc c'est un élément significatif. Après, il y a toujours le problème du nucléaire. Nous sommes pour effectivement non pas démanteler le nucléaire, mais le rénover et regarder comment on peut avancer à la fois sur les énergies alternatives et à la fois renoncer progressivement aux énergies fossiles. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu environnemental mondial, mais peut-être qu'il ne faut pas le prendre sur l'angle dogmatique. Sur ce point, on ne peut pas penser que M. de Rugy est dogmatique.
Alors, sur la nomination de François de Rugy, votre parti a choisi un angle d'attaque un peu étrange, en tout cas à mes yeux, en lui reprochant d'abandonner l'Assemblée nationale. On a entendu Eric Woerth dire ça, on a entendu Damien Abad dire ça, comme si François de Rugy était finalement une sorte de déserteur. C'est un peu curieux, non ?
Non. On va pas attaquer les gens personnellement, mais si c'est un déserteur, c'est plutôt un déserteur du parti écologique qu'un déserteur de l'Assemblée nationale. Chacun mène sa vie comme il veut, et donc il choisit de rentrer au gouvernement. Je pense que ça fait un moment qu'il attend cette promotion. Il l'obtient, et le président de la République est le seul à pouvoir décider qui fait rentrer au gouvernement avec l'acceptation des personnes concernées.
Le président de la République qui a perdu 10 points dans la dernière enquête d'opinion, il est à 31% de bonnes opinions, c'est un point de moins que François Hollande au même stade de son mandat, 31% donc. Qu'est-ce qui explique ce recul selon vous ? Est-ce que c'est sa politique ou c'est en partie des erreurs de communication ?
Les deux. Je pense qu'il y a eu, il y a eu des révélations d'abord, il y a eu des maladresses. Il y a même eu des fautes de la part du président. On ne dénigre pas les Français à l'étranger, quand on est à l'étranger. Et je pense surtout que...
Parler de la phrase sur les Gaulois.
Oui, celle-là qui vient après d'autres, je veux dire, contre les feignants. Et puis, moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était cette phrase en Algérie, où devant un responsable, les responsables algériens, il avait dit que la France avait enfreint de manière majeure les droits de l'homme. Donc,
mais à une époque où il était déjà président de la République.
Non, il était candidat. Oui, c'est ça, ouais. Le deuxième point, c'est que les Français se rendent compte, bon, ça c'est au fond le personnage, la critique de la personne qui mélange un tout petit peu l'arrogance et l'amateurisme. Mais ce qui est important, c'est que la politique qu'il mène est à la fois injuste et inefficace. Et probablement d'ailleurs, elle est inefficace parce qu'elle est injuste. Quand on ne fait pas d'efforts pour baisser le train de vie de l'État et qu'on demande toujours plus d'efforts aux Français et toujours plus à la même catégorie, en particulier les retraités et les retraités modestes, eh bien on voit bien qu'on mène une politique injuste. Le corollaire, c'est que le pouvoir d'achat diminue et donc la consommation diminue et donc la croissance diminue.
Ouais. Votre nom est cité, Jean Leonetti, comme possible tête de liste des Républicains aux élections européennes de mai 2019. Est-ce que ça vous intéresserait de le faire ?
Nous, on pense que la tête de liste, comme les candidats, c'est après le projet. Ouais. Et donc, on est en train de faire ce projet. Il est bien avancé, d'ailleurs. Vous avez vu qu'à Menton, on a fait une convention nationale pour définir les 7 piliers qui définissent notre projet européen. Aujourd'hui, on va le débattre dans toute la France avec les Français et pas uniquement avec les militants républicains. Et puis ensuite, je dirais, non pas de manière accessoire, mais on verra quels sont les hommes et les femmes qui peuvent le mieux incarner ce projet. Et ce projet, il est simple. Il est oui, nous sommes pro-européens. Ça, c'est la première des choses et c'est une évidence.
Même Laurent Wauquiez.
Surtout Laurent Wauquiez, si je peux me permettre. Le deuxième point, c'est les frontières. C'est un problème majeur. Les frontières doivent être sûres et elles doivent être stables. Bien, je pense qu'on doit défendre les Européens sur le plan économique et sur le plan culturel. Si on n'accepte pas l'idée qu'il y a une civilisation européenne, qu'il y a une culture européenne, ce que nie éventuellement par des petites phrases M. Macron, alors à ce moment-là, je pense que effectivement, il y a non pas la différence qu'il y a entre les progressistes, comme le dit M. Macron, et les nationalistes. Nous sommes ni dans le camp de M. Macron, ni dans le camp de M. Salvini. Nous sommes pour un projet européen, nous sommes pro-européens, mais nous voulons une autre Europe.
Merci Jean Leonetti.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.